Le but de cette entrevue, c'est que vous me parliez de la situation à Djibouti. On a peu de nouvelles de Djibouti, alors je vous laisse peut-être dresser, pour nos auditeurs, dresser un portrait d'ensemble de la situation actuelle à Djibouti. Enfin, on sait qu'il y a une base militaire française importante, une base américaine aussi, qui joue un rôle non négligeable peut-être dans l'Africa, mais bon, donc il y a des intérêts géostratégiques dans la région. Alors parlez-moi de Djibouti.
Donc ce qu'il faut savoir, Djibouti, c'est un micro-État de 23 000 km², à peu près 800 000 habitants, composé des Afars et des Somalis, et indépendant depuis 1977. Et depuis cette date-là, il y a une famille qui règne sur Djibouti. C'est la famille Gouled Guélé, c'est-à-dire l'ancien président qui n'avait pas de fils, donc a transmis le pouvoir à son neveu qui s'appelle Ismaël Omar Guélé et qui, depuis 1999, règne sur Djibouti d'une main de fer. Et c'est une dictature donc, qui s'est installée à l'ombre, bien sûr, des bases militaires françaises d'abord, américaines depuis 2001, japonaises depuis 2013, depuis 2012. Et voire même, il y a même des contingents allemands. C'est-à-dire, ces deux pays qui ont été vaincus durant la Deuxième Guerre mondiale ont fait leur première sortie à Djibouti. C'est pour vous dire combien ce petit pays est un joyau stratégique pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne voient que cet aspect de ce petit pays, alors que vivent quand même dans ce pays 800 000 personnes qui vivent sous une dictature sanglante. Et qui n'hésite pas à arrêter des gens, des exécutions extrajudiciaires, des arrestations. Et là, récemment, pour venir à la situation actuelle, il y a eu des élections le 22 février 2013. Et une coalition qui s'est formée à la veille de ces élections a emporté, c'est-à-dire un mois avant les élections, s'est constituée cette coalition. Et elle l'a emporté quand même contre ce régime, parce que c'est un régime qui dure depuis donc 77 et qui n'a finalement résolu aucun problème auquel est astreint les populations djiboutiennes, c'est-à-dire ni sur le plan sanitaire, ni sur le plan éducationnel, ni sur le plan social, c'est-à-dire actuellement sur les 800 000, peut-être à 400 000 personnes aujourd'hui sont proies à la famine et à la soif. Et cela se fait à quelques encablures des bases militaires françaises et américaines, qui, eux, n'hésitent pas à s'entraîner à balles réelles sur le terrain djiboutien. Et à quelques encablures, les gens, finalement, ont des problèmes de soif. Il y a deux semaines de cela, des gens sont... cinq personnes sont mortes de soif dans la région de Tajoura, à Moncourt et Nakir. Et ce qui fait que environ 4000 nomades se sont déplacés vers l'Éthiopie parce qu'ils ne pouvaient pas rester affrontés à cette soif. Donc on est face à un régime qui n'arrive pas à résoudre les problèmes de base de la population et qui en même temps, lorsqu'on veut résoudre cette question par une alternance, il refuse l'alternance par la force parce que ces élections ont été truquées, fraudées à tel point que c'est-à-dire le verdict qui est sorti des urnes a été complètement inversé au ministère de l'Intérieur, et ce qui fait que cela a engendré bien sûr des manifestations. Quelles manifestations ont été réprimées sauvagement? Il y a eu une dizaine de morts. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est FIDH, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, et il y a 800 personnes arrêtées, entassées dans des centres de tri. Et actuellement, il y a plusieurs dirigeants aussi qui ont été condamnés à Gabot. Il y a d'autres aussi qui croupissent depuis quelques années en prison, sans qu'il y ait procès, sans qu'il y ait accès à l'avocat, sans qu'il y ait accès même sanitaire, parce que c'est des gens qui ont été torturés férocement. Et comme le cas le plus emblématique est celui de Mohamed Ahmed Dijabha, militant d'un mouvement qui s'appelle le FRUD. Et aujourd'hui, il y a trois dirigeants aussi de modèles qui sont condamnés à 2 ans de prison, tout simplement parce qu'ils ont manifesté. Et il y a aussi un autre dirigeant de l'opposition qui s'appelle Daher Ahmed, qui a été aussi condamné à 2 mois de prison parce que, tout simplement, accusé de propager ou en tout cas d'inciter à l'insurrection.
D'accord. Et quel est l'état de, en fait, de l'opposition? Comment est-elle organisée, en fait?
Donc, il y a un terme classique, il y a des partis politiques qui ont été créés, qui sont légalisés suivant les circonstances du pouvoir. Et ces partis politiques peuvent être aussi peuvent perdre leur légalité du fait des princes. Et en tout cas, à la veille de ces élections, il y a eu une coalition qui s'est faite un peu à la hâte. Disons, il y a 5 partis traditionnels qui étaient déjà là, mais certains qui étaient illégaux, d'autres non. Et il y a aussi un nouveau parti qui s'appelle le Modèle. C'est une nouveauté pour Djibouti, qui est composé et des ulémas et des enseignants. Donc ces 6 partis ont fait une coalition qui a participé aux élections législatives. Et donc il y a un programme électoral. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que cette coalition va se transformer en une véritable coalition politique avec un programme important? Et cette coalition doit compter aussi avec une autre force qui s'appelle le FRUD, le Front pour la Restauration de l'Unité et la Démocratie, et qui, elle, lui, n'a pas participé aux élections, qui est une organisation plutôt politico-militaire, mais qui est dans une autre force. Et ils doivent aussi trouver une entente avec ces FRUD pour pouvoir amorcer finalement la transition vers la démocratie, parce que qu'on le veuille ou non, le régime de Djibouti a perduré longtemps, et donc là il a montré en tout cas ses limites, et les dernières élections en tout cas ont démontré une chose, c'est qu'il était ultra minoritaire, et que franchement les quelques velléités, les quelques bases sociales qui lui restaient l'ont quitté, et aujourd'hui vraiment il se trouve à nu. Et donc ce qui fait que c'est une question de temps, 1 année, 2 ans, 3 ans, en tout cas, il n'a plus aucune base sur laquelle il peut s'appuyer. Et donc maintenant la question est dans le camp de l'opposition, dans quelle mesure cette opposition, l'USN, qui s'appelle l'Union pour le Salut National, et le FRUD, qui est une autre force politique, vont s'entendre sur un programme de transition vers la démocratie. Et là, il y a quand même des pourparlers qui sont engagés, et qui sont en cours. Et on pense quand même, parce qu'il y a aussi la pression populaire, il y a la pression aussi de la diaspora, il y a aussi la pression des sociétés civiles qui, eux, veulent l'unité et surtout qui veulent une transition vers la démocratie, qu'il y ait une plateforme quand même qui soit très profonde et qui soit surtout en rupture avec 36 années de dictature féroce et clanique. Et donc, voilà, je pense que il y a tout. Aujourd'hui, les conditions objectives sont là et les conditions subjectives aussi semblent se préciser. Et peut-être on va arriver à cette entente, à cette convergence entre les différentes formes de l'opposition, y compris la société civile, les diasporas qui doivent aussi jouer un rôle important pour cette. Parce que toutes les questions, la situation de ce pays dépend des réponses qu'on va apporter à ces questions. Et je pense que il faut, on l'a vu ailleurs, peut-être ici ou même en Égypte et tout ça, il faut toujours préparer la transition avant l'heure, avant que la crise n'éclate. C'est maintenant qu'il faut préparer à Djibouti en tout cas cette transition-là. Parce que si la transition est préparée, peut-être on peut éviter les revers qu'on a connus ici et là. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tout cas, on concourt pour qu'on arrive à faire cette convergence, mais qu'il soit vraiment une rupture vis-à-vis de tout ce qui s'est passé depuis 36 ans.
Est-ce que c'est un peu un printemps djiboutien, comment l'opposition à Djibouti voit ce qui s'est passé dans les autres pays?
Je pense que le printemps, particulièrement de Tunis et d'ailleurs, ont influé fortement la situation à Djibouti. Déjà, il faut dire que les contestations étaient là à Djibouti. Déjà, le régime était contesté depuis très longtemps. Déjà, presque la majorité de la population était vraiment contre le pouvoir. Déjà, les élections ont été truquées. Mais je pense que ce nouveau printemps arabe a impulsé d'une nouvelle façon aussi la lutte du peuple djiboutien. D'ailleurs, en 2011, sur 350 000 habitants de la capitale, il y a à peu près 60 000 personnes qui sont descendues dans la rue pour dire halte à la dictature. Et donc, aujourd'hui aussi, les manifestations qui ont eu lieu le 24 février, le 25 février, le 26 février, ont démontré que quand même quelque chose a changé à Djibouti et qu'aujourd'hui, même où on parle, il y a toujours des manifestations, certains jours. Bien sûr, ça a été réprimé durement. Il y a eu une douzaine de morts. Il y a 800 arrestations pour quand même un pays de 800 000 habitants. C'est quand même quelque chose d'important.
Ça c'était quand ça c'était...
C'est à partir du 25 février. Et aujourd'hui, il y a toujours des gens qui sont en prison. Il y a toujours entre 800 et 1000 personnes qui sont toujours en prison et qui sont torturées surtout. Et d'ailleurs, ce pays-là a toujours connu des emprisonnements, des tortures et des exécutions extrajudiciaires, ainsi que des viols de femmes d'ailleurs de certaines régions qu'on appelle les régions Afar et qui sont perpétrées par les forces gouvernementales et qui sont restées impunies depuis une vingtaine d'années. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on pense qu'il faut tourner la page de ce régime-là et il faut surtout préparer l'après-dictature. Et
j'ai mes questions dans la question géostratégique aussi, l'importance des militaires étrangers à Djibouti, quel rôle jouent-ils en lien avec en appui avec le prince en ce moment?
Je crois que les difficultés que nous avons depuis une trentaine d'années, c'est justement parce que Djibouti, c'est une base militaire, c'est un site stratégique, et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire bouger ces messieurs-là. Sinon, c'est la caricature d'un pouvoir présidentiel. C'est vraiment quelqu'un qui est très corrompu, tout le monde le sait.
Et vous croyez que les Américains sont aussi peut-être en train de réorienter leurs activités, les Français, comment voyez-vous ce que les grandes puissances sont en train de voir à Djibouti?
En tout état des causes, nous considérons en dernier ressort que c'est le rapport de force qui est important. Et aujourd'hui, il y a un rapport de force tel que aussi bien la France que les États-Unis que le Japon vont suivre le mouvement parce qu'ils ne peuvent pas s'accrocher à quelqu'un qui ne représente que sa petite famille et qui aujourd'hui, vraiment, cette élection, si elle a servi à quelque chose, elle a servi à mettre à nu ces messieurs-là. Et donc, ils seront obligés, en tout cas, de suivre. Ensuite, bien sûr, comme c'est des grandes puissances, tout ça, ils vont essayer de tirer le marron du feu. Ouais. C'est un jeu auquel il faut s'attendre. Toujours est-il, c'est à l'opposition aujourd'hui, en tout cas, de créer une transition qui soit vraiment une transition démocratique. Et là, je crois aussi bien les Français que les Japonais, que les Français vont aussi s'adapter à cette nouvelle donne. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle rente stratégique de 120 millions d'euros qui sert tout simplement soit à remplir les poches de ce monsieur, c'est-à-dire dans les banques...
C'est la rente des bases militaires.
C'est la rente des bases militaires. C'est ce qu'on appelle la rente stratégique parce que chaque pays paye au moins de 30 à 35 millions d'euros. Et donc cet argent-là, d'ailleurs, va directement, ça ne va pas au trésor, ça va directement au palais Haramous. Il y a un trésor qui a été créé au palais officiel de Haramous. Et donc une très grande partie de ce magot va dans les caisses du président et de quelques affidés. Et le reste va dans la répression. C'est-à-dire tout est fait pour réprimer, pour avoir les... On dirait que vraiment, ça rappelle un peu la Tunisie de Ben Ali et de son épouse à l'époque.
D'accord. Et j'aimerais, pour les gens qui veulent s'informer, qui veulent suivre la situation à Djibouti, peut-être vous pouvez nous donner des sources d'informations ou des groupes à qui on peut parler ou suivre.
Oui, je pense qu'un des problèmes que nous avons jusqu'à maintenant, c'est que Djibouti n'était pas arrivé à avoir un radio, un journal, parce que tout est fermé. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul radio, il n'y a qu'un seul journal, il n'y a qu'une seule télévision. Et tout cela fait que ça a été, il y a un mur de silence qui s'est créé autour de Djibouti et que les gens n'ont pas d'informations. Et donc, pour un peu situer les problèmes, il y a donc, au niveau de l'opposition, il y a donc deux forces principales. Il y a l'USN, qui a participé aux élections et qui l'a emporté aux élections. Et puis il y a le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, qui est une autre force politico-militaire qui est là aussi et qui a une expérience plus grande, en tout cas en termes de résistance. Et donc, Et puis il y a quand même toute une diaspora qui aujourd'hui qui existe et qui essaie aussi de s'intégrer ou en tout cas de jouer un rôle positif dans la transformation de ce.
Et la diaspora djiboutienne, c'est à peu près combien de. Ça serait à peu près combien de population ?
Quelques milliers. Milliers. On peut parler de quelques milliers.
Ils sont surtout.
Surtout en Europe et en Amérique du Nord.
D'accord.
Et en Nouvelle-Zélande aussi.
En
Nouvelle-Zélande aussi.
D'accord. Alors, Mohamed Kadami ? Oui. Merci beaucoup pour cette.
C'est à moi de vous remercier.